Hier soir, nous avons vu ensemble que dans la manière dont Paul prie pour les églises, il y a deux grandes choses qui apparaissent. Quand Paul prie pour les églises, et s'il était là qu'il priait pour nous, il prie en tout premier lieu pour que nous qui sommes là, nous qui sommes chrétiens, dans les circonstances que sont les nôtres, nous puissions connaître d'une manière renouvelée celui qui s'est fait connaître à nous. Nous sommes appelés finalement, en toutes circonstances, à tourner et tourner encore nos regards vers celui qui est insondable, mais qui pourtant se révèle à nous dans sa grâce, au travers de son évangile, au travers de Jésus-Christ. Et puis nous avons vu que cette connaissance, elle est intimement associée au fait de devenir. Devenir qui nous sommes déjà en Christ, de revêtir cette identité que seul lui nous donne. Alors est-ce que vous vous rappelez cette connaissance de Dieu, cet évangile, la manière dont on peut connaître Dieu, quatre mots par lesquels on peut résumer ce chemin qui nous permet de connaître Dieu. Le premier mot, c'était Dieu. Oui, Dieu existe, il est là, il est présent. Et dans ce que je vis actuellement, Dieu est là. Parfois, je n'ai pas l'impression de le sentir, j'ai l'impression qu'il est peut-être loin, mais la réalité, c'est qu'il est là. Et il est là dans sa sainteté, et cette réalité que son existence est aussi liée à mon existence de créature qui aurait des comptes à rendre à Dieu. Le deuxième mot, c'était l'homme. Moi, je ne suis pas Dieu, et dans ma faiblesse, j'ai besoin de quelqu'un de plus grand que moi. J'ai besoin d'une grâce qui vient me secourir. Ma condition de pécheur ou ma condition de faible créature fait que les comptes que j'aurai à rendre un jour devant Dieu me disqualifient avec mes propres forces, avec mes propres aptitudes. Et donc, j'ai besoin d'une grâce qui ne vient pas de moi, mais qui vient de Dieu. Le troisième mot, c'était Christ. Christ est le moyen que Dieu a donné pour être mon secours. Et c'était vrai le jour de ma conversion, et souvenez-vous, le jour de votre conversion, mais c'est vrai aujourd'hui encore. Et on aime souvent se rappeler de l'évangile dans les promesses du passé. Un jour, nous avons cru et nous avons été sauvés. On aime se rappeler de l'évangile dans les promesses du futur. Un jour, le Seigneur reviendra et nous vivrons cette espérance qui est la nôtre de cette vie éternelle. Mais peut-être j'ai plus de mal à conjuguer l'évangile au présent. Cette grâce de Dieu, c'est aujourd'hui, maintenant, que j'en ai besoin. Et ces trois choses sont vraies. L'évangile dans le passé, ce que Dieu a accompli et qui est définitif. L'évangile dans le futur, l'assurance que Dieu nous réserve une place auprès de lui. Et puis l'évangile au présent, cette grâce dont j'ai besoin au quotidien. Et donc dans les prières de Paul, on peut voir ce lien intime qu'il y a entre le fait de connaître Christ, connaître l'évangile, et la manière dont nous devenons les disciples que lui veut que nous soyons. Et puis on a vu cette question, comment est-ce que je peux mieux connaître Dieu ? Alors c'est des évidences, il n'y a rien de nouveau. On est en 2021, mais l'enseignement du Seigneur n'a pas changé. Comment est-ce que je peux connaître Christ ? En passant du temps dans sa présence, au travers de la prière, de l'étude de sa parole. Et ô combien ça me défie dans les circonstances que sont les miennes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, personnellement, à chaque fois que je me retrouve avec un planning qui est modifié, par exemple en vacances, je suis censé avoir plus de temps en vacances, et pourtant je remarque que quand je suis en vacances, c'est là où j'ai peut-être des difficultés particulières à mettre du temps à part avec Dieu. Parce que ma routine, elle est modifiée. Et nos cœurs ont besoin de toute la grâce et de la patience de Dieu pour que nous continuions à répondre à l'appel de venir chaque jour, sans cesse, comme le faisait Paul, dans la présence de Dieu. C'est cette sphère privée. Comment connaître Dieu ? C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Ça a du sens. Nous sommes réunis, on se connaît plus ou moins, mais pourtant, nous sommes ensemble réunis pour louer le Seigneur. On a prié ensemble, on a loué le Seigneur dans sa présence. Ça a été rappelé dans les prières ce matin, il est présent au milieu de nous. Et nous vivons quelque chose qui a un avant-goût de ce que Dieu veut que nous vivions dans l'éternité. Et je ne pourrais pas connaître Dieu Si je me contentais seulement de la sphère privée, je pourrais être un ermite qui médite la parole, mais il manquerait dans ma connaissance de Dieu, cette connaissance au pluriel, collective, en tant que peuple. Les saints sont toujours au pluriel dans la Bible. Et nous avons une tendance à individualiser la foi dans nos chants, dans notre manière de considérer la louange. Parfois, c'est bien souvent le jeu qui vient et il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais n'oublions pas que c'est en tant que peuple que nous louons Dieu et que nous avons besoin de cette dimension publique qu'est l'Église. Elle est imparfaite, elle est souvent décevante parce que nous sommes des pécheurs rachetés avec nos mauvais caractères, avec nos faiblesses. Et ô combien dans l'Église, c'est là où nous sommes souvent défiés dans les pardons à exercer. Mais c'est précisément là où Dieu veut se faire connaître à nous, où Dieu veut que nous puissions le connaître d'une manière particulière, en vivant ensemble cette foi en tant que peuple. Et puis, et c'est lié, ce troisième lieu où Dieu se fait connaître à nous, dans nos relations interpersonnelles. Je pourrais être très pieux et venir à l'église tous les dimanches. Mais s'il n'y a pas un moment où je suis confronté, où je confronte mon caractère au caractère de l'autre, s'il n'y a pas un moment où on est en train de collaborer ensemble pour servir le Seigneur, et on va se manquer, et on ne va pas être d'accord, et on va même peut-être se disputer, on va trouver que l'autre, franchement, il ne s'y prend vraiment pas de la bonne manière, mais si seulement il m'avait écouté. C'est dans ces relations interpersonnelles où on voit les disciples quand on lit les évangiles, c'est là que ça se passe, sur le chemin, et les gars, ils viennent d'entendre un enseignement énorme, et c'est quoi la question qui se pose? Qui est le plus grand d'entre nous? Et les gars, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais oui, c'est dans ces moments-là, de relations interpersonnelles, que Dieu se fait connaître à eux, qu'ils ont une part supplémentaire de comprendre l'Évangile. Et hier, nous avons été encouragés dans cette sphère interpersonnelle à ne pas rester seuls, à pouvoir prier que Dieu nous donne d'avoir un frère, une sœur, avec qui on puisse partager nos fardeaux, porter nos fardeaux les uns des autres. Appelez ça comme vous voulez, groupe de croissance, vis-à-vis, peu importe le nom, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir l'humilité de dire « Est-ce que tu serais d'accord qu'on se voit et qu'on puisse simplement prier ensemble, partager nos vies ensemble devant Dieu ?» C'est de cette manière qu'on peut voir dans les évangiles Paul avec Timothée et des collaborateurs. Timothée a un grand frère, Paul, et il a besoin de quelqu'un qui va le challenger, qui va le superviser. Mais Timothée a aussi des collaborateurs avec qui on les voit être coude à coude, se tenir les uns les autres. Et puis Timothée a aussi des petits frères, des petites sœurs à qui il est amené à transmettre ce qu'il a reçu. Connaître Dieu, cultiver notre connaissance de lui est indispensable. Et j'ai cette tendance à vouloir devenir sans connaître. J'aimerais être plus ci ou plus ça. Être plus pertinent lorsque je peux parler de Dieu à quelqu'un qui ne le connaît pas. Être plus percutant lorsque je prêche l'Évangile. Être plus aimant lorsque j'écoute quelqu'un. Et j'aimerais devenir. Mais bien souvent, je veux le faire sans connaître, sans réellement être amoureux de Jésus-Christ dans ce que Dieu me confie. Et c'était ça notre encouragement hier soir, à mettre en priorité et à revoir nos priorités. Dans quelle mesure est-ce que je suis tellement amoureux de Christ que je veux le connaître plus dans ce que je fais, dans mon travail, dans mon couple, avec mes enfants, dans ce que le Seigneur me confie. Et c'est lorsque je suis dans cette disposition de cœur à connaître Christ, à mieux connaître Christ. Ce matin, j'ai discuté avec certains d'entre nous, ô combien j'aurais à apprendre 50 ans de vie avec le Seigneur. Ça fait une sacrée expérience. Mais pourtant, même après 50 ans, nous avons toujours besoin de connaître Christ parce que c'est notre vocation sur cette terre, de le connaître plus, de nous laisser imprégner plus de l'Évangile et de pouvoir avancer par sa grâce. Et c'est comme ça que nous devenons qui nous sommes déjà en Christ. C'est comme ça que notre identité, elle devient une identité fondée dans la vérité de qui nous sommes en Christ. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à porter du fruit. C'est toujours lié. Connaître Christ, c'est lié à porter du fruit. Et porter du fruit ne peut pas se faire sans connaître Christ. C'est deux dimensions qui sont intrinsèquement liées. Et ce matin, je vous propose de voir cette image de porter du fruit. C'est Jean 15, c'est Jésus qui dit à ses disciples, hey, « Hé, je suis le cep. Vous n'êtes pas le cep, vous êtes des sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et vous porterez un fruit que vous ne pourriez pas porter sans moi. » C'est l'image de la vie chrétienne dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais ce matin qu'on lise un texte dans Jérémie 17, qui est un texte en plein milieu de prophétie que Dieu donne à Jérémie. Et le chapitre 17 commence par cette réalité du cœur humain, que le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Que le péché est accroché au cœur humain. Et puis Jérémie va recevoir une vision qui est très graphique, vous allez voir. Une vision très illustrée d'une vérité fondamentale que Dieu adresse à son peuple et qui nous adresse au travers de sa parole. Et je vous demande de lire dans cette lecture, d'imaginer les choses. Vous allez voir, Dieu va montrer à Jérémie deux images qu'on peut visualiser. Et ces deux images, elles sont des illustrations que Dieu nous donne pour mieux comprendre comment est-ce qu'on peut devenir ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ, ce qui nous appelle à devenir chaque jour un peu plus de gloire en gloire. Donc je lis dans Jérémie chapitre 17, des versets 5 à 10. C'est un peu petit, je vais essayer de lire fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Vous la voyez l'image? Vous savez, dans les westerns, là, quand il y a les herbes mortes qui dans le désert qui passent comme ça devant l'écran, et puis là, il y a un pauvre cactus ou un pauvre genévrier qui est là tout seul au milieu du désert. Elle est là, l'image. Un genévrier, c'est un épineux, un buisson épineux, qui peut pousser dans des endroits très arides. Je ne suis pas fort en biologie, mais je sais que les épineux ont des épines pour pouvoir mieux capter le peu d'humidité qu'il y a dans l'air et pouvoir recevoir cette eau tellement rare dans les endroits déserts. Et qu'est-ce que Dieu il est en train de dire là? Qui est ce buisson épineux, seul, dans le désert, isolé, qui avec ses épines essaie de capter de l'humidité? C'est celui qui place sa confiance en l'être humain, dans ses propres forces ou dans un espoir humain. C'est celui qui détourne son espérance de l'Éternel. Et nous sommes comparés à ce buisson épineux, avec ce vent sec dans le désert, il y a de la solitude. Vous la voyez cette image avec le soleil ardent qui tape fort et qui rend ce genévrier complètement accablé par cette chaleur terrible qui pèse sur ses épaules. Et la seule chose qu'il peut faire, ce pauvre genévrier, c'est de faire pousser des épines. Et puis le texte continue. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Vous la voyez cette image? Vous pouvez l'imaginer, on retrouve le psaume 1, cet arbre planté près d'un cours d'eau qui porte du fruit en toute saison. Est-ce que la condition du deuxième arbre est très différente de la condition du premier arbre? En réalité, pas tant que ça. Est-ce que vous avez remarqué que ce deuxième arbre, lui aussi, il est confronté à la sécheresse? Lui aussi, il a un soleil terrible qui lui tape sur les épaules. Une chaleur accablante. Cette chaleur qui fait pousser des épines au genévrier. Les conditions de ces deux arbres ne sont pas tellement différentes parce qu'il y a la sécheresse. Il y a cette chaleur ardente qui vient peser sur les épaules. Pour Pourtant, l'image est frappante de différence. Un arbre seul dans le désert qui porte des épines isolées, et le deuxième, un arbre qui, malgré la sécheresse, porte du fruit. Pourquoi ? Parce qu'il a les racines plongées dans l'eau. Alors nous qui sommes des lecteurs du Nouveau Testament, rappelez-vous la révélation de Jésus à la femme samaritaine dans Jean 4. « Je suis cette eau qui donne la vie, » dit Jésus. Jésus, l'Évangile, connaître Dieu, c'est cette image des racines dans l'eau. C'est lorsque je suis ancré dans ma connaissance, aussi petite soit-elle, de l'Évangile et de Jésus-Christ, que je ressemble au deuxième arbre et non pas au premier. Et puis le texte termine ainsi, « Le cœur est tortueux, plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. » Jérémie, dans sa révélation, reçoit une indication qui est absolument intéressante. Dieu est en train de dire, hey, tu peux être un de ces deux arbres. Et en réalité, tu es souvent l'un ou l'autre. Mais le problème, ce n'est pas tant le soleil. Le problème, il se trouve à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur, le problème. Il est à l'intérieur. Le problème, c'est dans le cœur tortueux, plus que toute autre chose. Et je ne sais pas vous, quand je suis confronté à des difficultés, et que quelqu'un me pose la question « comment ça va ?» et que je dois raconter les choses, mes pensées, ce que je vais dire, ça va être focalisé sur quoi ? Sur le soleil, sur les circonstances. Mais tu ne sais pas comme c'est difficile. Au travail, oh là là, quelle galère ! Cette personne, vraiment, c'est... Je ne comprends pas comment elle a pu se retrouver ici. Ou peut-être que tu traverses des difficultés relationnelles, que ce soit au travail ou dans ton couple ou dans ta famille. Et quand on pose la question « quel est le problème ?», ben là encore, c'est la chaleur. Cette personne, c'est pas possible. Ma femme, la manière dont elle se comporte, c'est pas possible. Mon mari, il assure pas du tout. Et c'est vrai, la chaleur est bien présente. Il ne s'agit pas de nier les circonstances. Mais Dieu nous dit que nous sommes appelés à être un arbre qui porte du fruit, non pas par nos propres forces, mais par ce que lui produit en nous, quelles que soient les circonstances, et y compris avec une chaleur qui pèse fort sur mes épaules. Alors vous voyez l'image, qui est une image qui dévoile nos propres cœurs, une image qui est un chemin que Dieu nous invite à prendre, quelles que soient les circonstances de nos vies. Je ne sais pas ce que vous pourriez mettre, vous. Alors, c'est un soleil, hein, qui est là-haut, c'est la chaleur. Je ne sais pas ce que vous pourriez mettre là-dedans en ce moment. Ou peut-être si vous pensez 6 mois en arrière, 1 an en arrière, lorsqu'on était confinés. Franchement, la chaleur, elle était quand même assez forte. Et puis, il y en a qui, aujourd'hui, payent encore assez fortement la chaleur liée au Covid. Je pense à des étudiants qui se retrouvent dans une galère incomparable, qui sont en train d'essayer de faire des études et qui ont perdu le job qui leur permettait de pouvoir louer leur appartement ou s'acheter à manger, qui se retrouvent à faire des études à distance devant un écran avec une connexion Internet qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Ça, c'est la réalité aujourd'hui, hein. C'est encore ce qui se passe aujourd'hui. Je ne connais pas vos circonstances. Ce que je sais, c'est que si nous regardons 1 an en arrière, que ce soit le Covid ou que ce soit autre, nous avons eu et nous avons encore des éléments que nous pouvons identifier comme étant cette chaleur qui vient peser sur nos épaules, qui vient nous accabler. Et face à cette chaleur, ma réaction naturelle, c'est d'être un buisson épineux, de sortir des épines qui font mal aux autres, qui me font mal aussi. Un buisson qui n'a aucune saveur, on ne peut rien en tirer, on ne peut rien en manger, mais seules des épines. Ces épines, ça peut être la colère. Ces épines, ça peut être la dépression. Ces épines, ça peut être le découragement. Ces épines, ça peut être une addiction. Beaucoup de choses s'expriment dans nos vies lorsque les circonstances sont difficiles. J'ai un ami dans l'église qui est en lutte actuellement parce qu'il prend conscience que lorsqu'il est face à une tension, notamment dans son couple, ses épines, sa porte sortie de secours, c'est d'aller se mettre sur la terrasse et de fumer pour se mettre dans sa bulle. Et ces épines, vous pensez bien, elles viennent nourrir le ressentiment de sa femme. Et lui, dans ce temps-là où il est sur la terrasse avec sa cigarette, il nourrit le ressentiment envers sa femme. Et vous voyez comment ça fonctionne, cette chaleur qui vient peser sur nos épaules et qui fait naître les épines. La réalité, c'est que ces épines, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est le cœur tortueux. Qu'est-ce qui se cache derrière ces épines? Pourquoi est-ce qu'il y a de la colère? Pourquoi est-ce qu'il y a du découragement? Quelles sont les motivations qui sont finalement dans nos cœurs et qui font que face à cette situation, il y a des épines qui sortent? Par exemple, dans mon couple avec ma femme, j'ai une femme extraordinaire. On est mariés depuis 13 ans et on a le privilège d'avoir une vie de couple qui est heureuse. Mais si je me mets à faire de ma femme celle qui devrait combler les besoins de mon cœur, c'est ma femme après tout. Et j'ai des attentes. Mais si je me mets à faire de ma femme celle qui doit combler les besoins de mon cœur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre sur ma femme un joug trop lourd à porter. La réalité, c'est que Eva, aussi extraordinaire soit-elle, elle ne peut pas combler les profonds besoins de mon cœur. Pourquoi? Parce que seul Dieu peut le faire. Et alors que je vais mettre ma femme sur un piédestal, je vais la mettre comme si elle était Dieu, je vais faire peser sur elle une pression qui est intenable, et moi je vais être frustré. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des tensions dans notre couple. Il va y avoir des épines. Et là, imaginez que quelqu'un de bien formé et bien intentionné vienne nous voir en disant « J'ai remarqué que dans ta communication avec ta femme, il y a des trucs qui ne vont pas. J'ai vu des épines. » Et imaginez qu'il nous donne des bons conseils pour mieux communiquer avec ma femme. Franchement, ça va faire du bien. Et les épines vont être coupées. Mais est-ce que la situation aura changé dans mon cœur? Le problème de l'idolâtrie de mon cœur sera toujours présent. Et à coup sûr, les bons conseils de communication vont vite être rattrapés par les épines. Et c'est pour ça que le texte se termine par « le cœur est tortueux » puisque toute autre chose. Ce n'est pas les épines le problème, c'est bien le cœur. Qui pourra le connaître? Seul l'Éternel peut mettre de la lumière dans ce cœur tortueux. Et souvent, qu'est-ce qui se passe quand il y a des épines? Eh bien, il y a des conséquences. Des conséquences qui vont entraîner des dommages collatéraux. Mon addiction, ça ne me concerne que moi. Mais en réalité, ça va avoir un impact sur ma vie de famille, sur mes enfants, peut-être sur mon travail, mes relations avec les autres. Ma colère qui revient si facilement, elle va avoir un impact et ça mène à des séparations, ça mène à des situations où on a l'impression qu'on ne peut plus revenir en arrière. Donc ces épines qui collent à ma peau, elles vont avoir des impacts parfois bouleversants pour les vies qui sont autour de moi. Merci Seigneur, le texte d'aujourd'hui nous donne un autre chemin. Ce texte nous oriente vers la connaissance de l'Évangile, de qui est Jésus-Christ. Dieu est là, moi et mon cœur tortueux, je ne produis que des épines. Et j'ai besoin de toi Seigneur, ici et maintenant. J'ai besoin de toi Seigneur, face à cette circonstance qui vient peser, cette chaleur qui vient peser sur mes épaules. Jésus a tout accompli pour que nos vies puissent être rachetées. Ainsi, il nous a donné sa présence, son esprit, dans nos vies, ici et maintenant, en toutes circonstances. Et cela nous ouvre un autre chemin, un chemin qui est miraculeux, un chemin qu'on ne peut pas y aller avec notre volonté. Ce n'est pas « Allez, je vais y arriver », non. C'est « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux reconnaître qu'il y a un problème dans mon cœur. Aide-moi à identifier ce qui ne va pas dans mon cœur. Là où j'ai remplacé ce que toi seul tu peux faire par une idole. Aide-moi à comprendre par ton esprit. Et je veux revenir à toi d'un cœur repentant et me poser la question, qu'est-ce que toi tu veux faire? Qu'est-ce que toi tu veux dire dans ces circonstances? Et vous savez, on voit souvent dans la Bible des personnes qui prient pour que Dieu change les circonstances. Et nous avons raison de le faire. Nous faisons bien de prier pour que Dieu guérisse. Nous faisons bien de prier pour que Dieu permette que le travail soit trouvé. Nous faisons bien de prier pour que Dieu arrête cette pandémie. On voit des exemples bibliques où des chrétiens prient pour les circonstances, des croyants prient pour que Dieu change les circonstances. Et rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu a-t-il promis qu'il changerait toujours les circonstances? Certainement non. Et on voit dans la Bible parfois Dieu qui ne change pas les circonstances. Parfois il le fait. Par contre, Dieu a promis quelque chose. C'est que quelles que soient les circonstances, il voulait produire en nous un fruit qui vient de lui. Alors je crois dans ma prière, j'ai appris à prier lorsque je prie Dieu pour changer les circonstances, à ajouter dans ma prière, mais Seigneur, que ce soit fait selon ta volonté. C'est la prière du Seigneur à Gethsémané. Si tu peux ôter de moi cette coupe, mais Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais lorsque nous demandons à Dieu de venir transformer nos cœurs dans les circonstances, on n'a pas besoin de rajouter que ta volonté soit faite. On est en train de prier au nom de Jésus-Christ dans les projets bons que Dieu veut pour nous. Et nous pouvons le faire avec assurance. Alors, lorsque nous prions de cette manière, lorsque nous sommes dans cette relation en repentance, en reconnaissant nos cœurs tortueux et en cherchant à puiser en Christ, dans l'Évangile, les ressources, ce deuxième arbre, nos cœurs sont transformés et nous devenons, non pas par nos propres forces, impossibles, nous devenons des arbres qui pouvons porter du fruit, même dans des circonstances qui a priori semblaient impossibles. Seigneur, si tu n'enlèves pas ces circonstances, ce sera impossible pour moi. Le Dieu de l'impossible rend possible que malgré des circonstances, aussi affligeantes soient-elles, nous puissions porter du fruit par le miracle que lui accomplit en nous. C'est l'histoire de l'Évangile, hein. C'est ce que les disciples vivent. Quand on tourne les pages du livre des Actes, franchement, les circonstances, elles ne sont pas sympas, hein. L'opposition est terrible. Les circonstances sont difficiles, mais Dieu permet, il n'enlève pas ces circonstances, mais il va utiliser les disciples d'une manière miraculeuse pour porter du fruit malgré ces circonstances. C'est ça que Dieu veut pour chacune de nos vies. C'est ça que Dieu veut pour toi et moi. C'est ça que Dieu nous appelle à vivre dans cette vie. Et nous nous plantons souvent, et ô combien de fois je ressemble à cet arbre épineux. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes toujours sous sa patience. Et nous pouvons toujours nous tourner vers lui et recevoir de lui ce renouvellement de nos cœurs pour qu'on puisse porter du fruit malgré la chaleur de nos vies. Et quand on devient cet arbre porteur de fruits, eh bien il y a aussi des conséquences dans nos vies. Cette rosée, cette pluie bienfaisante qui dans le désert vient apporter quelque chose de renouveau de la part de Dieu. Et nous devenons des sources de bénédiction. Nous devenons nous-mêmes une source d'eau dont nous ne sommes pas la source, hein, nous faisons que transmettre l'eau que nous avons reçue de Dieu, mais c'est ça que Dieu nous appelle à être. Alors ce mécanisme du fruit porté, on le trouve dans plusieurs domaines de nos vies. Le premier domaine, c'est le domaine du caractère. C'est le principal. Dieu nous appelle à ressembler à Jésus-Christ de gloire en gloire. Hier soir, je vous ai demandé de réfléchir quel est le chantier que Dieu met dans ta vie actuellement. Si tu réfléchis au chantier que Dieu est en train de mener ou veut mener dans ta vie, c'est quoi? Et je crois que Dieu parle par son esprit pour répondre à cette question dans nos vies. Dieu veut que nous puissions vivre, Jérémie 17, dans ce chantier de nos vies, dans notre caractère. Et j'ai témoigné rapidement hier soir que personnellement, j'avais été saisi il y a 2-3 ans dans mon rôle de père, dans ma gestion de la colère. Il y avait un cœur épineux derrière. Il est toujours d'ailleurs, hein. Je ne suis pas encore délivré complètement. Ça, il faudra attendre la vie nouvelle dans ce nouveau corps. Mais j'ai la joie de pouvoir voir le fruit de Dieu qui vient prendre place, même lorsqu'il y a de la chaleur, là où il y aurait eu des épines avant, et gloire soit rendue à Dieu. C'est ce que Dieu veut faire dans nos caractères. Un autre domaine où on est apporté à vivre cela, c'est dans le domaine de notre service. Dieu nous a donné des dons pour chacun d'entre nous. Éphésiens 4 nous dit que Dieu, dans sa grâce, a distribué des dons dans l'Église pour que nous puissions prendre part à son service. Mais si j'essaye de devenir quelqu'un de fructueux sans connaître Dieu, je vais être un arbre épineux et mon service sera épineux. Alors Dieu, dans sa grâce, utilisera quand même sa parole parce qu'il est un Dieu qui ne dépend pas de nous. Mais Dieu nous appelle à être des personnes qui voulons servir Dieu avec un cœur qui est conscient de ses propres limites et de son besoin de transformation, de ce que seul l'Évangile, de ce que seul le Saint-Esprit peut faire. Et j'aimerais nous encourager ce matin aussi à considérer cette question des dons. C'est quoi, Seigneur, que tu m'appelles à faire? C'est quoi que tu veux me confier dans l'Église? C'est quoi que tu veux que je puisse apprendre pour porter du fruit pour toi? Ouah, quelle joie ce serait! Je me rappelle avoir prié lorsque j'étais jeune chrétien, peut-être une prière empreinte d'orgueil, un mélange d'orgueil et puis de révélation de Dieu. Seigneur, j'aimerais que tu m'utilises pour pouvoir mener des personnes à toi. Prière un peu peut-être mal paramétrée. Mais quand on fait cette prière en disant « Seigneur, j'aimerais que tu m'utilises » et le Seigneur m'apprendra que ce n'est pas pour ma propre gloire, je ne suis qu'un instrument entre ses mains, c'est bien pour sa gloire à lui, et bien Dieu répond à cette prière. Et j'aimerais nous encourager à ce qu'on puisse être des chrétiens qui, dans ces circonstances que sont les nôtres, je ne connais pas la circonstance de vos vies, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre chaleur, mais je sais que malgré cette chaleur, Dieu veut que vous puissiez porter du fruit. Dans votre caractère, mais aussi dans votre service pour lui. C'est merveilleux de réaliser ça, que Dieu veut utiliser nos vies malgré des circonstances qui pourtant nous accablent et nous empêcheraient de pouvoir porter du fruit avec nos propres forces. Et puis un troisième et dernier domaine dans lequel cette réalité est vraie, et c'est lié aux deux premiers, lorsqu'on est transformé par l'Évangile, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je n'aurai pas le temps, je ne vais pas la passer parce que le temps passe. Mais ici, c'est une sœur de l'Église qui est décédée il y a 3 semaines de ça. Natacha, on l'a connue il y a 3 ans. Elle avait déjà 45 ans. Et elle venait d'apprendre qu'elle était atteinte du même cancer qui avait emporté sa maman 3 mois avant. Dans ces circonstances, Natacha, il y a 3 personnes, dans des circonstances tout à fait différentes, qui lui disent... Est-ce que tu pries Jésus-Christ ? Elle n'avait jamais entendu parler de Jésus. Une fois, c'est une infirmière qui lui dit « Est-ce que tu as fait appel à Jésus ?» Elle dit « Non, moi je prie mes grands-parents qui sont décédés. Tu devrais faire appel à Jésus. » Une deuxième personne qui lui dit cette même question, rien à voir, « Est-ce que tu pries Jésus ?» Et puis une troisième personne qui lui dit « Est-ce que tu pries Jésus ?» Là, elle se dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et alors qu'elle est en tout début de cette maladie, elle va faire appel à Jésus. Et elle va le rencontrer dans sa présence dans un premier temps, lors d'un temps de louange dans une église, où elle va être saisie par la présence du Seigneur qui est là. Elle l'a rencontré, mais elle ne le connaît pas. Elle ne sait pas qui elle est, elle ne connaît rien de lui. Elle est avec toutes ses anciennes pensées, ses anciennes compréhensions. Mais elle l'a rencontré. Et c'est de cette manière que Natacha, elle est arrivée à Marseille. Elle a été rapatriée pour être traitée à Marseille. Et c'est son ami qui l'hébergeait, qui vient un dimanche matin et qui nous dit « Est-ce que je peux vous confier Natacha ?» Oui. Et puis Natacha, on a appris à la connaître et on a pu la voir connaître, apprendre à connaître Dieu, ce connaître dont on a parlé hier. Ce Jésus qu'elle a rencontré dans ses émotions, dans ce temps de louange, elle a appris à le connaître en vérité, par sa parole, par son esprit, parce qu'elle a pu vivre dans l'Église. Elle s'est faite baptiser et sa vie a été complètement transformée. C'était une personne qui avait travaillé dans le milieu de la nuit avec toutes les horreurs que l'on peut vivre dans ce milieu-là. Et sa vie était transformée sous nos yeux. Et puis Dieu a permis qu'il y ait une première rémission, miraculeuse, et finalement le cancer qui revient. Et une deuxième rémission, et finalement le cancer qui revient. Et au mois de décembre, c'est le jour où il y a cette vidéo, on a dit à Natacha, c'est la fin. Il y a une occlusion intestinale qui ne se lèvera plus, et il vous reste quelques jours. Et dans ce moment absolument tragique, elle était dans un hôpital spécialisé à Marseille. L'Église s'est proposée de pouvoir organiser une journée de jeûne et de prière pour remettre Natacha à Dieu. En priant de la manière dont j'ai dit tout à l'heure, « Seigneur, guéris-la, tu peux le faire. Nous savons que rien n'était impossible. » mais que ta volonté soit faite. Natacha priait de cette manière. Deuxième manière de prier, c'est comme ça qu'on a prié, Seigneur, enlève cette occlusion. Permet qu'il puisse y avoir un temps de grâce encore pour Natacha. On pensait à ses enfants qui étaient dans une situation difficile à ce moment-là. Et puis troisième prière, Seigneur, si tu dois la reprendre maintenant, alors que ta volonté soit faite, on veut se soumettre à toi. Et ce jour-là, elle a enregistré cette vidéo que je ne vais pas vous passer maintenant parce que sur les moyens techniques et le temps, ça ne passera pas. Mais dans cette vidéo, elle dit « Je suis en fin de vie. Je sais que je vais probablement mourir dans quelques jours. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je vais bien. Mon corps ne va pas bien. Je ne peux même pas lever la jambe. Je n'ai pas de force. Mais je sais que le Seigneur est avec moi et qu'il me donne une paix, une espérance dont je n'ai aucune gloire à tirer. C'est pas moi, c'est lui. Et les gens me disent à l'hôpital, les infirmières, mais comment vous pouvez prendre les choses de cette manière? C'est pas moi, c'est Dieu qui produit ça en moi. Elle a été un témoignage extraordinaire, bouleversant. Lors de ses obsèques, elle avait demandé à ce qu'on puisse passer ces vidéos. C'était bouleversant pour nous chrétiens de voir l'œuvre de Dieu dans ces circonstances. Elle est décédée seulement 2 mois après ça. Mais le Seigneur a levé l'occlusion ce jour-là. Les médecins ne savaient pas l'expliquer. Et il a permis que Natacha puisse aller bien dans la période de Noël. Elle a pu passer Noël avec ses enfants, qui ne sont pas chrétiens, et donner un témoignage qui était absolument extraordinaire, et notamment tourner les vidéos qui ont été tournées ce jour-là. Et puis, en février, une occlusion est revenue, et puis elle a pu partir dans la paix et la présence du Seigneur. Son témoignage a été, et on entend de voir encore ce que le Seigneur va faire de ça, a été vraiment bouleversant pour nous, mais aussi pour toute sa famille qui ne connaissait pas le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur fait. Voilà ce que le Seigneur fait quand, franchement, avoir une chaleur plus ardente que celle-ci, il n'y a pas beaucoup de situations. Le soleil, il était énorme. La chaleur ardente, elle était énorme. Mais Natacha a pu puiser en Christ, dans cette eau vive, des ressources qu'elle n'aurait pas pu vivre avec ses propres forces. Et elle a porté du fruit. Et aujourd'hui, ce fruit demeure. Aujourd'hui, on peut mesurer les fruits de tout ça et le Seigneur nous dépasse. On se languit de voir de ce que le Seigneur va faire avec ça. Quand on se laisse transformer, nous devenons des témoins de Jésus-Christ. Quand on se laisse transformer par l'Évangile, nous devenons des témoins de Jésus-Christ. Et dans ce devenir, il y a la transformation du caractère. Il y a l'œuvre que Dieu nous appelle à faire par les dons qu'il nous a donnés, mais il y a, avant toute chose finalement, cette place de lumière qu'il nous donne là où il nous a placés. Faites tous sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Regardez dans ce passage, et vous verrez qu'il y a plein d'autres passages comme ça, le lien intime qu'il y a entre la transformation, la sanctification du caractère, une vie sanctifiée, transformée, ce cœur tortueux qui devient un cœur fructueux, et le témoignage. Deux choses indissociables. Lorsque nous nous laissons transformer par Dieu, nous devenons des témoins de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre, il y a aussi écrit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi ». Des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Notre transformation par l'Évangile est liée à notre place de prêtres royaux. C'est quoi un prêtre? C'était quoi un prêtre dans l'Ancien Testament? C'était quelqu'un à qui Dieu confiait la responsabilité de présenter Dieu aux autres. Nous sommes des prêtres royaux dans cette nouvelle alliance. Nous sommes ceux que Dieu a choisis pour être des représentants de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore. Pas besoin d'être à plein temps, d'avoir fait l'IBG, d'avoir un temps consacré. Non, c'est notre vocation sur cette terre. C'est la grande découverte de la réforme, hein, le sacerdoce universel. Nous qui avons cru et qui sommes transformés, nous sommes ces prêtres royaux qui, dans notre humilité, sommes appelés à présenter Dieu à nos contemporains. C'est merveilleux quand on y réfléchit. C'est quelque chose qui nous concerne tous, d'une manière différente. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, mais nous avons tous le même appel. Et là, il y a quelque chose de très intéressant quand on réfléchit à se connaître et devenir. Si tu réfléchis à où tu seras mercredi matin à 10h, c'est bon, tu as pu identifier où tu seras, peut-être tu ne sais pas, mais beaucoup d'entre nous pouvons savoir où on sera mercredi matin à 10h. Eh bien, mercredi matin à 10h, nous serons ces chrétiens en mission, appelés à refléter quelque chose de Dieu là où il nous a placés. Mercredi matin à 10h, auprès des personnes qui seront autour de toi, Dieu veut t'utiliser pour être ce témoin de qui il est. Alors, je ne suis pas en train de te prophétiser que mercredi matin à 10h, tu devras sortir la chaire et puis t'adresser aux personnes de la réunion qui seront là pour leur dire « Chers amis, je veux vous annoncer quelque chose aujourd'hui. Enfin, » si Dieu t'inspire à faire ça, je ne veux pas réduire la manière dont Dieu peut appeler. Mais ce n'est pas forcément de ça dont je parle. Je parle du témoignage en acte et en parole que Dieu nous appelle à avoir au quotidien. « Seigneur, donne-moi de pouvoir te connaître au quotidien, de pouvoir être amoureux de toi au quotidien, amoureux de ta personne, de qui tu es, de ta présence dans ma vie, à pouvoir mettre l'évangile au centre de ma vie à tel point que là où tu m'as placé, je puisse laisser cette bonne odeur de l'évangile là où je suis. Que tu me donnes l'occasion et de saisir l'occasion lorsque l'occasion viendra de pouvoir dire quelque chose ou faire quelque chose qui vient de toi. Ce fruit qui n'est pas une épine, qui n'est pas quelque chose qui vient avec nos propres forces. Et alors là, si on y réfléchit, imaginez. Ici, il y a peut-être une ou deux personnes qui ont du temps qui a été mis à part pour servir le Seigneur. Pour ma part, ça fait 4 ans que j'ai mis mon travail à mi-temps pour être à mi-temps en tant qu'ancien dans l'Église. Je vous l'ai dit hier. Très bien. Mais j'ai un autre mi-temps où je suis à l'Éducation nationale. Est-ce que je suis moins consacré à ce moment-là? Est-ce que je suis moins serviteur? Pas du tout. C'est le même appel et le même processus de fruits portés qui se passe lorsque je suis au travail. Alors imaginez si on fait la somme de toutes nos vies, de tous les lieux où nous serons cette semaine, demain quand vous allez retourner au travail, les personnes avec qui vous allez être en contact, le nombre de minutes qui vont être des occasions de pouvoir être des témoins de Dieu là où il nous a placés, de pouvoir porter du fruit. Il y a un potentiel énorme que Dieu a mis au travers de l'Église, au travers de vous, au travers de nous, pour l'avancement de son royaume. Connaître Christ, mettre l'Évangile au centre, c'est devenir des disciples de Christ qui font des disciples. Un disciple, c'est un disciple qui fait des disciples. C'est un disciple qui a reçu et qui du coup peut donner. Et on ne peut jamais donner plus que ce que l'on a reçu. Par contre, on est appelé à donner ce que l'on a reçu. C'est ce fameux fruit. Ce que la source de vie nous donne, nous sommes appelés à le donner. Alors, chers amis, je veux vraiment nous encourager à ce que, quand on réfléchit à cette question de ce qui est essentiel, on puisse mettre notre connaissance de Christ dans la plus grande des priorités. Mais que cette connaissance, elle ne soit pas théorique. Que cette connaissance de Christ au quotidien puisse être une connaissance pratique, une connaissance qui s'incarne dans nos vies. Vous savez, c'est le moment où, je redonne un exemple dans la parentalité, je viens d'intervenir auprès des enfants pour que les choses se calment. Je leur ai expliqué comment on pouvait faire pour que ça se passe bien et qu'on ne se dispute pas. Et je me retrouve enfin tranquille dans mon canapé à pouvoir lire ce que j'avais à lire. Et puis à ce moment-là, j'entends les cris des enfants à l'étage qui reviennent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me lève. Et dans mon cœur, à ce moment-là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Hein, c'est d'autres motivations qui viennent bouillonner de mon cœur tortueux. C'est précisément à ce moment-là, à cet instant T, que je peux soit être un arbre épineux pour mes enfants, ou être un arbre fructueux pour mes enfants. Et c'est quoi qui va faire la différence? C'est cette prière, au moment où je vais avancer dans ma colère bouillonnante, où je me suis levé de mon canapé. « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Seigneur, c'est maintenant que j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Et le Seigneur, dans sa fidélité, il transforme les cœurs. Et vous voyez, se connaître et se devenir sont des choses qui s'incarnent, qui se vivent dans le quotidien. Et c'est à cette relation que le Seigneur nous appelle, à être amoureux de lui dans le quotidien des choses qu'il nous confie, à être amoureux de lui, quelles que soient les circonstances de nos vies. Alors finalement, c'est quoi l'essentiel ? Après cette année de pandémie, on peut courir le risque d'avoir abandonné des choses essentielles, d'avoir renoncé à vivre les bons objectifs que Dieu veut pour nous. Et peut-être de préférer le canapé, comme ce chat, à l'action, le fruit que Dieu veut que nous fassions. Mais Dieu nous interpelle par sa parole à remettre dans les priorités la connaissance de qui il est, son évangile. Méditons l'évangile. Dieu existe. L'homme est pécheur. Mais Christ est intervenu. Ma réponse à cela. Ce message à annoncer, mais avant tout ce message à vivre dans nos relations. Que cette connaissance puisse être concrètement mise en œuvre. Hier, je nous ai interpellé pour dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de concret que Dieu t'appelle à faire dans ce domaine-là ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à mettre en place dans ta vie pour que le temps que tu consacres à la connaissance de qui est Christ, tu puisses le mettre en place ? Est-ce que ce matin, on a pu commencer cette journée en disant « Seigneur, je sais que j'aurai besoin de toi, parce que si j'y vais avec mes propres forces, je vais être un buisson épineux. » Peut-être qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, on s'est préparé pour aller au culte, il y avait les enfants habillés, il y avait tout un tas de choses, on n'a peut-être pas bien dormi, et on a peut-être pu prendre que quelques instants. Mais c'est bien cet état de cœur qui fait toute la différence. « Seigneur, je veux prendre le temps de demander ton aide, ton secours. Je veux me régaler de ta présence. Je veux prendre conscience que tu es là avec moi. » C'est cette connaissance à laquelle Dieu nous appelle et qui durera tout le long de notre vie. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous dépendons de Christ, de son évangile, de sa présence dans nos vies, alors nous devenons qui nous sommes déjà en Christ. Nous devenons de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, le projet que Dieu a pour nous. Et nos vies sont transformées et nous portons un fruit dont toute la gloire seule peut revenir à Dieu. Alors la réalité, c'est que, vous savez, dans l'image avec les deux arbres, c'est très rare qu'on passe d'un côté du buisson épineux à l'autre côté le buisson fructueux. En tout cas, dans ma vie, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt deux vers. Du buisson épineux vers le buisson fructueux. C'est un processus. C'est quelque chose qui se renouvelle. C'est quelque chose que Dieu veut faire au quotidien dans nos vies. Et c'est pas noir ou blanc. Dieu nous amènera à la perfection. Ce qu'il a commencé, il le mènera à son terme. Mais nous sommes appelés à ne pas nous arrêter, mais à emprunter ce chemin de sanctification qui va de vers, qui devient, qui ne s'arrête pas au passé, qui ne s'arrête pas aux échecs, qui ne s'arrête pas dans ce qui peut nous enfermer et qui nous empêche d'avancer aujourd'hui. Nous sommes appelés à devenir. Non pas par nos propres forces, mais parce que c'est le projet que Dieu a pour nous et que ce qu'il a commencé, il le mènera à son terme. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de pouvoir le connaître d'une manière renouvelée et de devenir qui il veut que nous devenions en Christ. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est une parole vivante. Merci parce que cette parole, quand nous la méditons, quand nous nous arrêtons, nous pouvons entendre ta voix. Nous pouvons entendre des vérités qui viennent dévoiler nos cœurs. Et nous nous retrouvons mis à nu dans la vérité, dans cette lumière que ton esprit met dans nos vies. Mais Seigneur, merci parce que lorsque nous nous retrouvons mis à nu, nous n'avons pas à être honteux. Parce que cette honte, c'est toi qui l'as déjà portée à la croix. Tu as pris sur toi cette indignité. Tu as pris sur toi nos épines, nos cœurs tortueux. Et nous pouvons au contraire, dans ta lumière, Seigneur, recevoir ce pardon, cette grâce, cette transformation que tu veux opérer dans nos vies. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi nous accable par la honte, en nous accusant d'une manière qui nous ferait croire que nous ne pouvons plus venir vers toi dans ta lumière. Non, Seigneur, la vérité rend libre et ta lumière délivre. Seigneur, je te prie que dans chacune de nos vies, nous puissions te connaître d'une manière renouvelée. Nous puissions mettre l'Évangile au centre de nos vies, d'une manière renouvelée. Que ça ne reste pas quelque chose de théorique, Seigneur, mais bien une relation où nous sommes amoureux de toi, amoureux de qui tu es, de ce que tu fais et de ce que tu feras encore dans nos vies. Seigneur, tu sais ce qui doit être mis en place dans nos vies pour que nous puissions vraiment mettre en priorité notre vie de piété, notre dépendance de toi. Tu sais nos échecs passés, tu sais cette chaleur qui vient nous accabler. Mais Seigneur, nous croyons que dans ce domaine-là, tu veux faire cette œuvre de transformation. Seigneur, je te prie pour nos caractères. Oh, tu connais le chantier qu'il y a encore. Et merci pour ce que tu as déjà fait. Seigneur, donne-nous de prendre au sérieux le chantier que tu mets aujourd'hui devant nos yeux. Que ton esprit nous interpelle en nous disant, hé, là, il faut qu'on y aille ensemble. Il y a des choses qui sont dans les ténèbres qui doivent être mises dans la lumière de l'Évangile. Seigneur, donne-nous de pouvoir être ces arbres qui reconnaissent nos cœurs tortueux pour recevoir de toi un cœur renouvelé, transformé, qui par ta grâce peut porter du fruit. Seigneur, donne-nous d'être ces serviteurs qui nous savons appelés à te servir. Tu as donné des dons à chacun d'entre nous. Que Seigneur, tu nous donnes de porter du fruit pour toi. Et Seigneur, je te prie que nous puissions être ces témoins, là où tu nous as placés. Mercredi à 10h, lundi à 20h, jeudi à 14h, tu seras avec nous et tu nous appelleras à être ces prêtres royaux qui pouvons être une interface pour nos collègues, notre famille, nos amis qui ne te connaissent pas encore, pour qu'ils puissent te rencontrer. Seigneur, merci pour l'œuvre de gloire que tu veux faire, non pas pour notre royaume personnel, mais pour ton royaume, Seigneur. Apprends-nous à mettre ton royaume en priorité et à renoncer à l'artefact de notre propre royaume. Non, Seigneur, c'est toi, le roi des rois, nous t'avons loué ce matin ainsi. Et nous voulons que nos vies soient consacrées à cet avancement de ton royaume dans lequel tu nous as réservé une place. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.